Boomerang avec le grand compositeur de musique de film Eric Serra qui propose des ciné-concerts autour du Grand Bleu. Inutile de vous dire qu'on est de la partie, le bruit de la mer et l'état de la terre avec Eric Serra. C'est parti. Est-ce que vous connaissez ce petit point bleu pâle, cette photo de la planète Terre prise par la sonde Voyager 1 en 1990 à une distance de 6,4 milliards de kilomètres, qui était la photo la plus lointaine jamais prise jusqu'à il y a 2 ans? Est-ce que vous connaissez ce texte surtout du grand professeur américain Carl Sagan qui parle de ce petit point bleu pâle, qui nous invite à le regarder, qui nous dit « c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous ». Sur ce point se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisation, tous les rois, tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs, les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pêcheurs de l'histoire de notre espèce qui ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Et il ajoute, Carl Sagan, que pour lui, il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule, que ce point bleu pâle qu'il s'agit de préserver et de chérir, parce que c'est la seule maison que nous ayons jamais connue.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un habitant, comme vous et moi, de ce petit point bleu pâle. Compositeur de musique de film, il vous a notamment fait planer sous l'eau, dans l'espace ou dans le métro. On le retrouvera en mars prochain pour une série de ciné-concerts autour du Grand Bleu, parce qu'on ne s'en sort jamais d'une expérience sonore, visuelle, humaine comme le Grand Bleu. Bonjour Eric Serra.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Sur quelle planète est-ce que vous avez l'impression de vivre, vous?
Alors, sur ce petit point bleu pâle, justement, qui est une magnifique planète, mais qui est très en danger et qui n'est pas grand-chose. C'est ce qui m'a bouleversé quand j'ai découvert ce texte, justement, du point bleu pâle, le Pale Blue Dot. Quand j'ai découvert ce texte, ça m'a vraiment fasciné, quoi. Enfin, quand on lit ce texte en regardant cette fameuse photo, puisque donc le Pale Blue Dot, c'est le nom de la photo sur laquelle on voit cette Terre qui est minuscule, quoi, qui est comme une étoile.
C'est cette image qui vous a fait prendre conscience de la fragilité de notre planète. Le déclic, ça a été ça?
Disons que non, ça avait quand même déjà commencé bien avant, évidemment. Mais effectivement, ce point bleu pâle, il aide à prendre conscience. C'est d'ailleurs pour ça que Carl Sagan avait vraiment tout fait, s'était battu pour arriver à faire cette photo, parce qu'il pensait que ça pouvait éveiller des consciences.
Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui, vous, Eric Serra?
J'ai peur, par exemple, pour mes enfants, ouais. C'est que quand on voit ce qui se passe un peu partout sur la planète, et le manque de conscience de beaucoup de gens, ça fait peur, oui, quand on voit ce qui se passe en Amazonie en ce moment. Justement, les astronautes vous le disent tous, eux qui sont allés là-haut et qui ont vu la Terre, donc qui ont eu une vision qui aide à cette conscience. Pour eux, c'est une évidence, quoi, que la Terre est en danger et qu'il est temps de se réveiller.
Il se trouve que quand on pense à la planète Terre, on pense évidemment à l'océan, un espace que vous avez mis en musique dans le Grand Bleu. Quand vous regardez l'océan aujourd'hui, ouais, vous voyez quoi?
Même chose, je vois quelque chose de magnifique, en danger.
Et qu'est-ce que vous entendez, vous qui êtes musicien? Quel est le bruit de l'océan?
Oh, les chants de baleines, c'est quand même très expressif. Et c'est bouleversant.
Je vous parle de son parce que vous avez su, mieux que personne, restituer une ambiance sous-marine, une ambiance qui suggère l'immensité, la pesanteur, le mystère aussi. Et j'aimerais qu'on s'y plonge ce matin un petit peu dans ce Grand Bleu. Qu'est-ce qu'on entend là?
Alors on entend des sons totalement synthétique, mais inspiré des chants de baleines. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que quand j'ai fait ça, en fait, dans le Grand Bleu, on ne voit pas de baleines, on voit des dauphins. Et mais je sais pas, ça me voilà, c'est venu comme ça. J'ai fait ces sons-là qui étaient donc clairement inspirés des chants de baleines. Mais c'est marrant parce que moi je les ai utilisés pour symboliser entre symboliser les dauphins et ça a fonctionné. C'est-à-dire que tout le monde entend des dauphins, quoi. Alors que les dauphins, ça n'a pas du tout ces sons-là.
Vous aviez les images sous les yeux, Eric Serra?
Ah oui, oui, ça, je compose toujours à l'image, moi. Je suis tailleur, je fais pas du prêt-à-porter, quoi. Je fais vraiment du sur-mesure.
Et quelles images vous viennent immédiatement à l'esprit, à l'écoute de ce morceau?
Oh bah, là, du coup, maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est les images du film, évidemment.
Un plan en particulier? Une image?
Ah ben là, quand j'entends ça, moi je le vois image par image, la scène. Parce que je fais tellement du sur-mesure que chaque note correspond à une image. Donc là, je vois le film défiler en temps réel et je vois la synchro. D'ailleurs, c'est une des particularités de ce ciné-concert qu'on a monté, c'est qu'on joue vraiment la musique du film à l'identique, note pour note, avec les sons d'origine et synchronisés parfaitement à l'image près, comme dans le film.
Vous ne l'avez jamais oublié, cette musique et les images qui y sont associées?
Je ne sais pas si je l'ai jamais oublié, parce que moi, j'écoute pas tellement mes musiques en général. Je préfère écouter celles des autres. Et là, il se trouve que pour monter ce ciné-concert, il a bien fallu que je me replonge dedans profondément, pour le décortiquer, pour pouvoir le jouer sur scène. Donc, là, évidemment, maintenant, du coup, il est très, très proche dans mon esprit, très présent.
Votre musique, Eric Serra, elle reste associée aux images d'un cinéaste avec lequel vous n'avez jamais cessé de travailler, même si vous vous êtes autorisé quelques pas de côté, notamment avec la partition du James Bond GoldenEye en 1995. Mais pour nous, Eric Serra, c'est d'abord, une diva, tiens, une diva dans le cinquième élément. C'est aussi une espionne avec un flingue dans Nikita. C'est aussi un dénommé Léon. Quel rôle joue la musique dans un film pour vous, Eric Serra, a fortiori dans le film d'un réalisateur aux images spectaculaires?
Ça dépend beaucoup du réalisateur, le rôle que joue la musique, puisque le rôle que joue la musique, c'est celui que veut bien lui donner le réalisateur. Et moi, j'ai cette chance d'avoir beaucoup travaillé avec Luc Besson, qui donne en général un rôle très important à la musique. Alors, le rôle, il dépend vraiment des scènes, mais Luc a une idée vraiment précise de ce fameux rôle dans chaque scène. Il sait exactement ce qu'il veut que la musique apporte.
Par exemple.
Alors c'est jamais en termes musicaux, hein, puisqu'il est pas musicien, mais il a une vraie sensibilité musicale et c'est en termes d'émotion, de sentiment. C'est-à-dire qu'il me demande, dans telle scène, je voudrais que tu fasses ressentir telle émotion.
Sur Léon, par exemple, qu'on entend là.
En fait, la plupart du temps, il va me demander de faire... Parce que vous savez, quand vous regardez un film, vous vous identifiez à un personnage. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous identifier à ce personnage-là plutôt qu'à un autre? Ça, c'est pas vous qui choisissez, contrairement à ce que peut-être on peut croire. Ça, c'est justement nous.
C'est nous qui vous manipulons.
Vous êtes obligé d'utiliser ce rire diabolique, Eric.
Oui.
Qui est très flippant.
Et notamment, c'est la musique qui fait ça. C'est-à-dire que dans une scène à trois personnages, c'est la musique qui va décider à quel personnage vous allez vous identifier.
Passionnant.
Et ça, Luc maîtrise ça parfaitement. C'est-à-dire qu'il sait exactement comment amener ça. C'est lui qui me l'a fait découvrir, ça d'ailleurs, parce que moi je me rendais pas compte. Et donc dans une scène, il va me demander, je veux que le spectateur ressente ce que ressent ce personnage-là. Et du coup, bah, moi, à ce moment-là, je me mets à la place de ce personnage et puis bah, je compose tout simplement.
Avant même de le rencontrer, Luc Besson, quel cinéphile est-ce que vous étiez, vous ?
Je n'étais pas spécialement cinéphile.
Alors comment est-ce que vous l'avez...
J'aime bien le cinéma, mais...
Rencontré,
pas plus
Luc Besson
que... On s'est rencontré dans un studio d'enregistrement dans lequel je faisais des sessions pour un chanteur qui s'appelle Pierre Jolivet, qui était donc plutôt à l'époque comédien, qui est devenu depuis réalisateur, mais qui a fait un album dans sa vie de chanteur, et moi en fait j'étais appelé pour faire les guitares, les solos de guitare sur cet album. Et Luc était un jeune ami à lui, en fait ils étaient à cette époque en train d'écrire ce qui allait devenir le premier film de Luc. Et on s'est rencontrés pendant ces séances d'enregistrement, on avait 18 ans, et Luc m'a vu improviser comme ça, et du coup dans sa tête il s'est dit, s'il improvise comme ça, c'est qu'il est compositeur.
Non mais n'empêche, c'est quand même hyper intéressant, Eric Serra, parce que on l'a entendu, l'univers musical que vous avez fait naître avec les films de Luc Besson, il est très marqué par l'électro, on y reviendra d'ailleurs, et pourtant plus jeune, votre passion, c'était le rock à la Led Zeppelin, ce glissement, comment est-ce qu'il s'est opéré en fin de compte?
Bah, il s'est opéré parce que l'évolution technologique qui a voulu ça. Parce que l'électro, quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, ça n'existait pas encore. Donc moi, j'étais plutôt effectivement dans le rock. J'étais effectivement fan de Led Zeppelin, notamment. Mais ensuite, quand l'électro est arrivé... En fait, l'électro est arrivé avec les premiers ordinateurs, etc. Et moi, j'ai été fasciné par ça... Dès le départ, parce que j'étais fasciné par la science-fiction, et j'étais plutôt matheux, c'est-à-dire j'adorais tout ce qui était mathématiques, scientifiques, etc. Du coup, l'ordinateur, pour moi, c'était un jouet génial, c'était un jouet de science-fiction, quoi. Donc, dès qu'il a été possible d'acheter un ordinateur, j'ai été un des premiers à l'acheter.
Et alors, pour Le Grand Bleu, qui fêtait l'année dernière, il faut le dire, ses 30 ans, Le Grand Bleu, hein, pas nous, cette partition qui n'était pas du tout faite pour être jouée en public, comment est-ce que vous avez fait pour l'adapter à la scène avec des musiciens, et surtout, quelles difficultés est-ce que ça représentait?
Alors oui, c'était très compliqué. En fait, j'ai mis des années avant de me décider à faire ce ciné-concert. Et parce que, comme vous venez de le dire, cette musique n'avait pas du tout été conçue pour être jouée. C'est-à-dire, moi, j'avais conçu ça pour qu'on puisse l'écouter, etc. Mais pour moi, c'était pas une musique de scène.
Pourquoi ? Avec quels instruments est-ce que vous aviez travaillé ?
C'était essentiellement des synthés, des boîtes à rythme, de la programmation, puisque c'était encore les débuts de la musique par ordinateur. Et donc moi j'adorais ça parce que ça m'amusait, voilà, c'était un jeu, et puis ça me permettait de faire des choses aussi qu'on ne pouvait pas faire avec un groupe.
Mais c'est vrai qu'au tout départ, Luc Besson voulait un orchestre symphonique.
La première idée, oui, c'était ça. Parce qu'on était fans de Spielberg, Lucas, et ce genre de cinéastes. Dans leurs films, il y avait toujours de la grande musique symphonique.
Et c'est vous qui avez dit
John Williams, quoi. Non, pas du tout. Au début, j'ai dit oui, et je me suis plongé d'ailleurs dans la musique classique pour ça, parce que moi je suis autodidacte, donc quand il a été question que j'écrive de la musique symphonique, évidemment au départ j'étais un peu terrorisé, et puis donc je me suis plongé là-dedans pendant 2-3 ans, et...
Ah quand même !
Ouais, parce qu'en fait on avait commencé à parler du Grand Bleu 2-3 ans avant de le faire, et en fait au dernier moment, Luc a changé d'avis. Un jour il est venu me voir et il me dit, oh tu sais, finalement je me dis que c'est le classique, c'est pas notre culture. Alors, moi j'étais un peu décontenancé parce que moi ça commençait à le devenir, vu que j'en écoutais 3 heures par jour au casque, les yeux fermés, exprès dans l'optique de faire ça. Et il me dit, non, finalement on va plutôt faire une musique qui nous correspond, qui correspond plus à ce qu'on écoute, nous, nos goûts personnels, etc. Qui était donc, nous, ce qu'on écoutait, c'était de la pop.
Mais cela dit, l'étude de la musique symphonique, ça vous a appris quelque chose? Ça a forcément changé votre façon d'appréhender la musique, non?
Complètement, oui. Ça a totalement bouleversé ma façon de voir les choses. Parce que avant ça... Quand je composais, je visualisais dans ma tête, je visualisais un groupe, puisque c'était ce que je connaissais, quoi. Donc, une batterie, basse, guitare, clavier, cuivre, etc. Alors que là, en écoutant beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique symphonique, ça m'a ouvert l'esprit à complètement autre chose. Et du coup, je considérais plus les choses de la même façon. Et grâce aux ordinateurs, en plus, je pouvais faire ce que je voulais, c'est-à-dire que si on a envie de faire, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais si on a envie de mettre 6 ou 7 grosses caisses différentes dans le même morceau, avec un batteur ça va être compliqué, avec un ordi on peut, enfin tout est permis.
De quel logiciel est-ce que vous disposiez à l'époque?
Ah, vous voulez le nom du logiciel?
Ah bah oui, on est technique ici.
Ah ouais, grave. le logiciel s'appelait Performer. Ça existe toujours d'ailleurs maintenant, ça s'appelle Digital Performer et on en est à la version je ne sais combien, genre 10 ou 11. À l'époque, c'était Performer tout court, version 1.
Mais vous voyez pourquoi je vous pose cette question, parce qu'il y a quand même chez vous un côté un petit peu geek. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des logiciels, tout n'est pas devenu un petit peu trop facile?
Non, justement, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de logiciels. Il y en a qui sortent tous les jours. Il y a énormément de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour savoir tout contrôler, là, il faut s'accrocher.
Qu'est-ce qui vient en premier chez vous quand vous composez de la musique?
Ça peut être une mélodie, ça peut être un rythme, ça peut être un son, ça peut être franchement n'importe quoi.
Par exemple, la dernière que vous ayez composée, vous vous souvenez?
La dernière que j'ai composée, c'est un petit gimmick de piano, comme ça, une petite boucle de piano.
Et ça
très
suffit
simple.
À un morceau, ça?
Ben, ça suffit à déclencher un morceau. En fait, le premier truc qui vient, c'est comme une étincelle, quoi. Donc après, dès que vous enregistrez, que ce soit une petite phrase musicale ou un bout de rythme, quoi, un bout de percussion ou un son, tout de suite, ça vous inspire soit un complément, soit une suite, etc. Et puis, bah, c'est comme ça que ça commence et que ça se construit.
Moi, je pense tout de suite à ce morceau, It's Only Mystery, que vous avez écrit avec Corinne Marienno et Louis Bertignac pour le Subway de Luc Besson en 1985, interprété par Arthur Sims. Vous vous souvenez de comment ça a commencé? Comment elle est venue, cette chanson?
Non. Non, franchement, je me souviens pas de comment j'ai commencé à la composer, parce que c'était franchement il y a 35 ans, je crois. En tout cas, elle n'est pas venue par le tout, tic, tout, 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 si c'est ce que vous voudriez.
C'est-à-dire qu'il est dingue, ce tic, tout, titi, tout.
Il est super, et ça, je dois dire que c'est Louis Bertignac qui a eu cette idée de ces trucs de percussion, là, au début. Au départ, moi, la chanson, j'avais écrit, c'était une chanson, donc je l'avais composée à la guitare et voix.
Et soudain,
donc le touk tic touk touk touk, lui, il est venu dans l'arrangement, quoi.
On en veut du touk tic touk touk, Eric. On l'écoute, tous les deux, ensemble.
Allez.
Maintenant, allez, on l'écoute. Vous êtes sur France Inter avec Eric Serra. Vous écoutez pour moi, évidemment.
How can I keep on smiling? Their disguise. When I know nothing good ever comes from lies, my heart is no beginner, but still I can lose my temper.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'on est quelque part entre Al Pacino et Cédric Villani, et quelque part entre le truand repenti et le prix Nobel. Je vous dis pas qui est qui, évidemment, avec son air un petit peu lunaire, son cheveu ébouriffé, son œil étonné. Il a cette dégaine de l'éternel adolescent, celui qui passe des nuits blanches à bidouiller sur son PC tout en récitant des poèmes, et que l'on croise le matin assis dans le métro, tête penchée sur un manga, un volume de la Pléiade ou un traité de mathématiques. Il est étonnant. Il est là où on ne l'attend pas, avec tous ses bracelets sur le poignet gauche et sa chemise ouverte. Le musicien et compositeur Éric Serra, invité de Boomerang ce matin. Éric, vous avez grandi dans une famille de musiciens. Qui était votre père ?
Alors, mon père s'appelait Claude Serra et c'était un chansonnier. Et il avait inventé... Il avait inventé un truc qui s'appelait la chanson flash.
Ah, quand même. Oui.
Et qui avait très 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 bien marché au début des années 60.
Et ça consistait en quoi?
Alors, le concept, c'était que c'était les chansons les plus courtes du monde. La plus courte durait 2 secondes. C'était effectivement.
Vous nous la chantez, là?
Ah oui, elle était simple. Ça s'appelait chanson profonde. Et il faisait avec sa guitare, il faisait drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr celle-là.
Ah bah c'est extrême.
Sinon ça racontait des choses hein, en général. C'était le concept des chansonniers quoi. C'est-à-dire ils en profitaient pour faire passer des messages un peu soit engagés, soit drôles, soit.
Bah, il avait fait un petit peu le Grand Bleu avant l'heure avec cette chanson flash que vous venez de nous chanter.
Oui c'est vrai.
Vous étiez proche de lui.
Très très proche, oui, on est resté très proche jusqu'à la fin d'ailleurs. C'est lui qui m'a offert ma première guitare quand j'avais 5 ans. Je le voyais jouer de la guitare à la maison, donc évidemment je voulais faire pareil. En plus à l'époque on avait moins de distractions. J'étais d'autant plus proche de lui que j'ai perdu ma mère très très jeune. Du coup j'ai passé ma vie avec lui, quoi. Après, enfin toute mon enfance.
C'était une vie de solitude aussi ?
Pas mal, ouais, parce qu'on habitait à toute mon enfance, on habitait dans le sud de la France, à 2 kilomètres du premier voisin. Donc, ouais, j'étais tout le temps dans la nature avec mon chien ou dans ma chambre en train de jouer de la guitare.
Vous diriez que c'est un état nécessaire à la création, la solitude, justement, Eric Serra ?
Pour moi, oui. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui écrivent à plusieurs. Je les envie d'ailleurs, parce que cette solitude, elle n'est pas toujours très agréable. Hein. Il y a des moments difficiles, mais. Mais pour moi, oui, elle est nécessaire. C'est-à-dire que je peux pas créer si je suis pas tout seul. Ouais.
Et alors un jour, si on revient à cette première guitare, votre père a débarqué avec une guitare comme ça ?
Alors la toute première, je vous avoue que je ne me souviens pas l'instant où il me l'a offerte, parce que j'avais 5 ans. Ouais. Et j'ai pas de souvenir de cette époque, donc j'ai pas le souvenir d'avoir commencé la musique, moi. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, puisque je ne me souviens pas de la première fois.
Mais vous les avez toujours, les guitares de votre enfance ?
Ouais. Ouais, ouais.
Elles sont toutes petites, alors?
Alors, la première, oui, elle est toute petite. C'est une guitare un quart. Donc, c'est une guitare classique, mais d'études pour enfants. Donc, elle est grande comme ça.
La taille d'un
vous
ukulélé.
Vous voyez à la radio, vous voyez.
Cette radio n'est pas filmée, mais on dirait la taille d'un ukulélé.
Oui, c'est ça. C'est à peine un poil plus grand qu'un ukulélé. Et j'ai ma première guitare électrique, je l'ai eue quand j'avais 11 ans. Et je l'ai toujours aussi. Mais la guitare classique que j'ai eue à 5 ans, ce qui est drôle, c'est que je l'ai perdue pendant une trentaine d'années.
À Londres.
Et je l'ai retrouvée 30 ans plus tard.
Et où est-ce qu'elle se cachait, celle-là ?
Elle était chez un gars dans le sud de la France, qui l'a gardée religieusement. Et moi, j'étais persuadé l'avoir perdue définitivement, évidemment.
Mais comment est-ce que vous avez appris à en jouer de la guitare ?
Alors vraiment, comme ça, c'était juste mon jouet favori. Donc j'avais toujours mes doigts dessus. Et petit à petit, j'ai appris à en jouer comme ça parce que j'en jouais tous les jours.
Vous imitiez votre père aussi ?
Et j'imitais mon père, oui, c'est ça.
Ah, qu'est-ce que vous jouiez sur cette guitare ? Des chansons flash ?
Non, parce que lui à la maison, il jouait pas ses chansons flash. En fait, parce que les moments où il créait ses chansons, je le voyais pas. Non, je le voyais quand il était en train de s'entraîner, quoi. Il jouait du classique. Il avait des partitions classiques et il jouait du classique. Et de temps en temps, alors ça c'est lui qui me l'a raconté plus tard, puisque je me souviens pas, mais de temps en temps, il y avait un truc qui m'intriguait, je lui disais, oh, fais voir, comment tu fais ça? Et là, il me montrait, donc j'essayais de refaire pareil, et puis il me disait, tu sais, si tu apprenais à lire les partitions, tu pourrais faire ça sans moi, du coup. Hein. Et là, je disais, non, je veux pas, je voulais pas apprendre. Et il a jamais insisté, et ça, c'est une chance inouïe, je pense que c'est ce qui a fait que je suis toujours passionné de musique. Personne ne m'a jamais forcé, ça a toujours été mon monde de liberté, quoi.
Ça représentait ça, la musique, pour vous, la liberté ?
Ah ben, grave.
Et qu'est-ce que ça vous apportait, Eric Serra?
Bah de rêver quoi. Ça me quand je fais de la musique, je pars vraiment dans un autre monde quoi. C'est de la téléportation un peu hein, la musique.
Du réconfort aussi.
Bien sûr.
Je sais qu'il y a une voix qui ne manque jamais de vous réconforter. Cette voix, c'est celle de Jacques Higelin et on va l'écouter dans cette émission. C'était il y a 4 ans.
La grâce, c'est ça qui m'intéresse le plus. Si on perd la grâce, à quoi bon continuer? Moi, c'est pas ma carrière qui m'intéresse. C'est pas du tout. C'est le plaisir de partager la musique, les sons, la danse, le mouvement. Tu vois, c'est ça qui me branche. Et puis, j'ai eu tellement d'aventures avec les gens. Et très émouvantes, tu vois, très, très émouvantes. Tu vois?
Quand vous entendez sa voix, Eric Serra, vous entendez quoi?
Jacques, c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie.
Vous êtes hyper ému, là.
Bah oui, oui, bah bien sûr. C'est vraiment, ça a été à la fois... j'ai déjà dit ça, mais c'est parce que c'est vrai, quoi. Ça a été quelque chose, c'est une relation très, très unique, si vous voulez. C'est vraiment entre un père, un frère et un meilleur ami, quoi. C'était à la fois tout ça, quoi, la relation qu'on avait. Et j'ai eu la chance, donc, de le connaître et de commencer à jouer avec lui quand j'avais 20 ans, donc j'étais jeune. Et tout le groupe avait plutôt une trentaine d'années.
Vous étiez son bassiste.
J'étais son bassiste et en bout de 3 semaines, il m'a nommé chef d'orchestre. et donc, je me suis retrouvé chef d'orchestre à 20 ans avec un groupe qui était plutôt des trentenaires, ce qui est une grosse différence à cet âge-là, et qui était c'était des rockstars, mais vraiment, c'était les Rolling Stones, quoi, à l'époque, ce groupe.
Quelles images vous viennent immédiatement à l'esprit de vos années à côté de Jacques Higelin?
Ah, des images, je fonctionne pas trop par images, mais en tout cas, c'est les plus beaux souvenirs de ma vie, toute cette période. On était vraiment un groupe de quand j'ai commencé à jouer avec lui, vraiment, je pense que si les Rolling Stones m'avaient appelé, c'était pareil. C'est-à-dire que c'était du même niveau, quoi. C'était un groupe de vieilles rockstars, et moi j'étais dans ce groupe, et en plus j'étais chef d'orchestre, entre guillemets, hein, si vous voulez. C'était juste, j'étais le seul à pouvoir faire le lien et l'interprète entre les musiciens et lui, qui parfois partait dans des délires. Mais je sais pas, moi je le comprenais exactement, je comprenais comment il fonctionnait, j'acceptais plein de choses parce que je trouvais son génie avait forcément des revers. Et ça, les musiciens avaient un peu du mal à les accepter. Moi, je les acceptais parce que je trouvais ça normal. Je me disais, bah oui, ce mec-là, évidemment, il y a des moments, il est insupportable. Mais c'est un génie, donc s'il était comme tout le monde, ce serait pas un génie.
Dans cette émission, on l'a entendu, il parlait de la grâce. Ouais, c'est un moment magnifique. Qu'est-ce que c'est pour vous, la grâce, Eric Serra?
Bah, la grâce, c'est effectivement d'exprimer des choses le mieux possible, d'essayer d'être le plus épanoui possible, d'essayer de transmettre ça, d'essayer d'aider les gens à s'épanouir eux-mêmes, de donner des choses belles ou agréables, ou d'être la générosité, je pense que c'est le principe même de ce que font les artistes, quoi. C'est...
Vous l'avez touché du doigt, parfois, la grâce, vous?
Oui, je pense, ouais. Je me suis senti dans des états difficiles à décrire, difficiles à raconter. Et notamment avec Jacques, les premières fois que j'ai ressenti ça, en tout cas, c'était avec lui. C'est-à-dire, c'était sur scène avec lui. Moi, il m'est arrivé avec lui de pleurer en jouant, tellement c'était beau. C'était rare, hein, je dis pas qu'on était en larmes tous les soirs, mais il m'est arrivé, notamment quand on faisait Bercy, on avait fait un mois à Bercy avec Jacques, et je me souviens particulièrement un moment, on était en train de jouer un truc, et il y avait une telle émotion, et une telle complicité, quoi, une telle osmose avec le public, c'était tellement beau, qu'à un moment, je me suis retrouvé en train de pleurer pendant que je jouais. Mais de pleurer d'émotion, de beauté, quoi.
C'était quel morceau?
C'était Victoria. Un truc qui s'appelait Victoria. que d'ailleurs j'avais co-écrit avec lui. Et c'était vraiment, c'est une espèce de balade comme ça, très romantique et très, très grandiloquente, et très théâtrale, comme beaucoup de choses que faisait Jacques. Et c'était mais magnifique. Et ça, bah ça, voilà, ça c'est des moments de grâce, effectivement, des moments où on touche quelque chose de purement beau.
Merci infiniment. Éric Serra, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que la tournée du Grand Bleu débutera en mars, qu'elle vous fera parcourir la France, d'Amiens à Bordeaux, en passant par Nice, Clermont-Ferrand, Nantes, sans oublier une date à la Cité des Congrès, le 22 mars, un crochet par la Belgique, par la Suisse. Et tout de suite, on va écouter les médias, Sonia De Villers, juste après ça, quand même.
J'ai peur de devenir fou, je vois danser. J'ai peur de devenir fou, parfois. Et ce l'est. Et ce l'est. Sur la forêt, la foudre s'abat. Je sens sa chaleur. J'ai peur de devenir fou.
Dominica et Solé, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers. Vous m'entendez, Sonia ?
Évidemment, Augustin. Allez, à demain.